Bonjour Guillaume.
Bonjour Pierre.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une lettre de Saint Paul, l'apôtre, et c'est la lettre aux Éphésiens que nous avons choisie. Alors pour commencer, il y a peut-être un environnement historique à aborder pour savoir où était Paul, en quelle époque il a écrit. C'est peut-être un peu intéressant de savoir, disons, ce qui l'a amené à écrire cette lettre.
Alors Paul, on peut estimer que quand il écrit les Éphésiens, c'est un homme qui a la soixantaine, environ 60 ans, et il serait mort environ à 67 ans. Il serait né environ avec le siècle. Et dans les écritures de Paul, il y a le temps d'une dizaine d'années, ses lettres de missionnaire quand il fait ses voyages, avec Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens, Romains. Et puis il y a les lettres qu'on appelle de la captivité, des lettres qu'il écrit entre 60 et 62 quand il est à Rome à la fin de son quatrième voyage, et qu'il est emprisonné, mais à la fin du livre des Actes, il est dit qu'il était dans un appartement qu'il avait loué. Alors son emprisonnement était quand même relatif, mais il était sous garde,
une résidence surveillée.
Résidence surveillée, voilà. Et il fallait qu'il comparaisse devant César. Et c'est là où il écrit ces quatre lettres qui sont Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon.
Alors pourquoi on qualifie, je comprends, c'est parce qu'il n'était pas libre, mais des épîtres, disons, de la captivité, elles sont marquées particulièrement par sa situation?
C'est parce que dans ces lettres, il parle de ses liens. Il parle de ses chaînes, il parle de la prison.
Ah, d'accord, voilà, oui.
Il
est quand même marqué par la situation.
Voilà. Et donc, il écrit ces quatre lettres, et son emprisonnement se fait sous l'empereur Néron, qui a régné, donc de 54 à 68, et il est relâché en 62 environ, et pendant 2 ans, il va repartir en mission, et il va par exemple laisser Tite en Crète et Timothée à Éphèse. Et il va leur écrire, donc à Tite et à Timothée, cette première lettre à Timothée et la lettre à Tite. Et ensuite, il va être réemprisonné en 64, quand Néron commencera ses persécutions auprès des chrétiens. Et il va écrire cette deuxième lettre à Timothée, qui est la dernière des 13 lettres que Paul aura écrites.
Oui. Donc, il adresse cette lettre aux Éphésiens.
Il adresse cette lettre aux Éphésiens. Éphèse est donc une ville d'Asie mineure, dans la Turquie actuelle, et vous en parlerez mieux que moi.
Oui, c'est très beau.
Et lui, il écrit de Rome, bien sûr, étant emprisonné à Rome.
Alors, qu'est-ce qui le pousse à écrire à Éphèse? Est-ce qu'il a une motivation particulière, une demande express?
Alors, c'est intéressant d'envisager ces quatre lettres de la captivité dans leur globalité,
oui.
Puisque Philippiens, par exemple, est une lettre qui parle de la joie, la tristesse, se réjouir. Et Paul écrit aux Philippiens, Philippe en Macédoine, donc beaucoup plus au nord qu'Éphèse, au nord de la Grèce. Paul est en captivité et il apprend que à Philippe, ils sont assez divisés et il leur dit, mais voilà, apprenez à vous réjouir, malgré votre situation. Colossiens, c'est pas loin d'Éphèse, alors c'est pas loin, tout est relatif, bien sûr, mais peut-être une centaine de kilomètres,
même
à
pas.
Peu près, même pas. Et donc, à Colosse, Paul va leur écrire en leur montrant qu'est-ce qu'il faut qu'ils gardent de l'enseignement chrétien et comment est-ce qu'il faut qu'ils le mettent en pratique en discernant la volonté de Dieu. Donc, c'est un sujet qui est sensiblement différent. À Philémon, alors, Paul va tirer profit du fait qu'un des esclaves de Philémon s'est enfui et Paul a fait sa connaissance en prison et Philémon s'est converti. Onésime l'esclave. Et c'est l'esclave de Philémon que Paul connaît très bien et Philémon est un des mécènes de Paul. Et donc, Paul va écrire à Philémon qui, je crois, habite à Colosse ou près de Colosse. Et il va lui proposer de trouver ce qu'on appellerait une côte mal taillée. Ne fais pas crucifier ton esclave qui s'est enfui, mais s'il te doit quelque chose, bien sûr, je te le payerai. Voilà donc une troisième circonstance. Alors, Philippiens se réjouir, Colossiens savoir comment accomplir la volonté de Dieu, et puis Philémon, savoir comment vivre dans la société, dans son quartier, on pourrait dire, en tant que salarié, par exemple, aujourd'hui. Et puis Éphésiens, c'est tout à fait différent, c'est comprendre que nous vivons dans le monde invisible, dans les lieux célestes, que nous vivons quelque chose d'assez unique, nous sommes à la fois matière et immatière, nous sommes matière et esprit, et donc nous avons à connaître ces lieux célestes, savoir quel est notre rapport avec les lieux célestes, savoir comment, qui est dans les lieux célestes. Bien sûr, il y a Dieu, mais il y a aussi les anges, le diable et ses propres anges, les démons, et donc savoir comment ce rapport entre l'humain et les lieux célestes se fait et comment est-ce qu'il doit être réglé.
Et quand on lit cette lettre aux Éphésiens, on se rend compte en fait qu'il y a deux parties essentielles. La première, qui va du chapitre 1 au chapitre 3, bien, va être un rappel de la doctrine chrétienne. Donc c'est du spirituel, hein, effectivement. Et puis dans la deuxième partie, qui va du chapitre 4 au chapitre 6, eh bien, c'est l'application concrète de cette spiritualité, de cette, disons, dans la vie quotidienne. Alors maintenant, peut-être on peut passer à l'analyse, disons, du texte. Et donc, dans la première partie, d'abord, il y a, dans le chapitre 1, et du verset 1 à 3, il parle tout de suite de bénédiction spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme, bénédiction spirituelle ?
Eh bien, si vous me le permettez, je vais un peu reprendre cette vue en deux blocs, hein, 1 à 3 et 4 à 6, à vue à laquelle j'adhère, bien sûr, mais en disant que je crois que souvent on fait la différence entre l'enseignement théorique et l'enseignement pratique, et qu'à mon avis, il faudrait peut-être insister sur le fait qu'il ne faut pas faire de différence.
Oui, mais alors je suis d'accord avec vous.
Voilà.
Bien sûr que dans le texte, il y a deux parties, mais si on était correctement chrétien, je veux dire, il faudrait que ce soit...
Que tout soit cohérent.
Bien
alors,
sûr.
Dans cette perspective-là, alors, l'Épître aux Éphésiens parle effectivement au chapitre 1, verset 3, de bénédiction, et je crois que le fil conducteur de toute cette lettre, c'est quel est notre rapport au monde invisible. Alors, regardez, nous allons picorer, prendre voilà. Quelques versets dans la lettre. Et comme vous le dites, chapitre 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On va prendre la peine quand même d'expliquer un tout petit peu les expressions. Donc, Dieu nous a bénis, donc il nous a fait du bien, il nous a donné quelque chose de bon. De toute bénédiction spirituelle, c'est-à-dire de tout ce dont nous avons besoin en esprit, c'est-à-dire l'esprit étant la source de la vérité en nous, et la source du renouvellement, de la puissance, de la consolation. L'esprit, c'est Dieu qui habite en nous et qui est vivant et qui nous dirige, etc. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ, puisque la préposition grecque « en » veut dire ces deux choses. Nous sommes béni par l'œuvre ou par l'intermission de Jésus-Christ, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, c'est-à-dire que nous avons, nous, à vivre dans les lieux célestes, nous y sommes, nous vivons, et nous avons cette capacité, par exemple, d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu ou d'entendre la voix de l'ange ou du démon, mais qui se fait sous un canal spirituel, pas sous un canal auditif.
Oui.
Et donc, nous avons quelquefois des convictions quand on dit, tiens, il faudrait que j'aille rendre visite à telle personne. C'est bien peut-être l'Esprit de Dieu qui nous suggère, tranquillement, doucement, mais fermement, de faire cette chose-là. Donc, ça commence par une bénédiction, donc une capacité que nous avons à vivre dans les lieux célestes. Ça continue, par exemple, au verset 10, où nous voyons que Le propos de Dieu, le dessein de Dieu est de réunir en un les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire les choses qui sont immatérielles ou invisibles et les choses matérielles, pour que le monde matériel soit vraiment dirigé par le monde spirituel. Et au chapitre 1er, on continue à picorer dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 16, la prière de Paul, c'est que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de révélation et que les yeux de notre cœur soient éclairés.
Oui.
Et donc, on voit que sa prière, c'est que spirituellement, nous soyons vraiment vivants et que nous puissions entrer dans cette réalité que, premièrement, au verset 20, que Dieu a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes, on retrouve toujours cette expression,
oui.
Et au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, domination et nom, ce qui représente l'arborescence démoniaque, l'arborescence des puissances du mal. Et donc, Christ est au-dessus de toutes ces puissances, Satan est le chef des puissances du mal, et il y a le chef, le sous-chef, un peu comme nous, nous avons un président de la République, des ministres, des préfets, des maires, des agents de police, etc. Il y a une arborescence. Et donc, au verset 6 du chapitre 2, on voit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que nous avons avec Christ autorité. Nous avons la même autorité que Christ sur les puissances spirituelles. Nous sommes assis avec lui et nous avons, nous, un appel auquel Dieu nous appelle de marcher, que l'on voit par exemple au chapitre 3 et au verset 10, où Dieu nous demande que sa sagesse si diverse soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Église.
Oui, alors je pose une question qui peut paraître surprenante, mais ça m'intrigue. Il y a le Fils, Dieu, qui règne, mais est-ce que c'est pyramidal ce que vous décrivez? Parce que ce serait inquiétant, parce que la base, ce seraient les esprits mauvais, ils seraient plus importants que la pointe.
Alors, on va parler de tout ça en détail, mais je réponds assez rapidement en disant que Christ, Dieu qui s'est fait homme, est au-dessus de toute autorité.
Au-dessus.
Donc, il n'est pas question, si vous voulez, de quantité de personnes ou de quantité d'esprit, hein, mais lui domine et tout esprit lui est assujetti.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi à examiner, c'est toujours dans le chapitre 1, mais du verset 4 à 6, on voit qu'en fait, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisi pour les siens. Donc, ça veut dire que ce plan existe de toute éternité.
Oui. Dieu vit quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Sa préconnaissance est quelque chose de difficile à envisager pour l'humain. Et d'un côté, on a du mal à comprendre qu'il soit préconnaissant. Et de l'autre côté, s'il ne l'était pas, on serait un peu inquiet aussi.
Oui. Oui, non, mais on aurait pu penser que, compte tenu de l'évolution des choses, Dieu adapte aux situations. Mais non, c'était prévu à l'avance.
C'est ça. Dieu est absolument souverain. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, mais dans sa souveraineté, il collabore avec l'homme. Et je dirais même que les démons sont, lui étant soumis, participent à son œuvre indirectement. Hein, ce n'est pas lui qui dit aux démons, qui demande aux démons d'aller faire du mal à quelqu'un. Mais quand quelqu'un fait le mal et de ce fait a besoin de la puissance du démon, alors Dieu permet et donne l'ordre aux démons d'y aller.
Donc, il Dieu autorise, disons.
C'est ça, il autorise. Mmh. Dieu est vraiment souverain. Et alors, le mot qui est aussi intéressant à expliquer dans ce que vous avez dit, choisi, hein, Dieu nous a choisi ou élu, il faut aussi qu'on en parle.
Voilà, oui, effectivement. Donc, c'est dans le chapitre toujours 1 et du 11 à 14, c'est la question même essentielle, c'est celle du choix, de la sélection des hommes par Dieu. effectivement, il y en a qui sont pris, j'allais dire, et d'autres qui ne le sont pas. Alors, je sais que ça a fait dans l'histoire beaucoup de problèmes, de grandes théories qui sont heurtées, même au XVIIe siècle, hein, avec la prédestination. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il y a des laissés pour compte, quoi ?
Je pense qu'on peut répondre assez simplement à tout cela en disant que, en argumentant sur deux mots, le premier c'est la prédestination et le deuxième c'est le choix ou l'élection. Prédestination, ce mot se trouve trois fois dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, 29, Éphésiens verset 5 et Éphésiens verset 11. Et on voit que les chrétiens sont prédestinés, Romains 8, 29, à être semblables à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire à être humain, Éphésiens 1, verset 5, à être adopté, et Éphésiens 1, verset 11, à être héritier. Ce qui fait que la prédestination d'être humain, adopté et héritier, c'est que Dieu a défini par avance que les hommes étaient des humains. C'est quelque chose d'assez simple. Personne n'est prédestiné à quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, nous sommes tous appelés à être adoptés par Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ étant le dernier Adam, étant le premier d'une nouvelle humanité, en quelque sorte, le premier d'une lignée d'enfants de Dieu qui sont réconciliés avec Dieu par son œuvre expiatoire, par son sacrifice, alors tout le monde est appelé à être fils de Dieu, mais ceux qui choisissent volontairement d'être fils de Dieu, alors ceux-là, Dieu les choisit. Et les élus, ce sont ceux qui ont répondu positivement à l'appel de Dieu. Le nombre de passages dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu appelle, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2, verset 4, Dieu, acte 17, verset 30, ordonne à tous les hommes que tous en tout lieu ils se repentent. Donc le message évangélique est un message universel, et Dieu choisit ou élit ceux qui se présentent en quelque sorte. C'est comme aux élections.
On ne peut pas être élu si on ne se présente pas. Et on ne peut pas gagner au loto si on n'a pas joué.
Exactement.
Donc, alors, je suis plus sérieux et je récapitule. En fait, le fait d'être humain fait que nous sommes appelés, choisis.
C'est ça.
Mais qu'après, Dieu nous laisse libres d'adhérer à son plan ou pas. Et donc, ceux qui n'adhèrent pas, eh bien, ils ne vont pas, évidemment, être choisis, sont sélectionnés, et effectivement, donc, considérés comme des élus et des héritiers. C'est ça.
Absolument.
Alors, toujours dans ce texte, il y a quand même deux verbes qui m'ont frappé, c'est le verbe « choisir » et « connaître ». Alors, d'habitude, dans notre vie de tous les jours, il faut connaître pour choisir. Vous parliez d'élection. Il faut quand même que je sois penché un peu sur les programmes électoraux pour choisir celui qui me conviendrait le mieux. Donc il faut connaître d'abord. Alors qu'avec Dieu, c'est un peu l'inverse. On choisit, et c'est le fait d'avoir choisi qu'on connaît après tout. Pas après tout dans le temps, je veux dire, tout ce qu'il y a à connaître, je veux dire. C'est pas ça.
Je suis d'accord avec vous, avec la nuance que quand on choisit, on connaît quand même énormément de choses sur Dieu qui nous appellent à choisir pour lui. À la fois des choses sur Dieu, par exemple la création, avec tout ce que ça comporte de fantastique, de varié, de beau, etc.
Mais ceux qui ne sont pas des élus, des choisis, aussi voient la création.
C'est ça, mais ça devrait les pousser.
Mais ils ne connaissent pas.
Ça devrait les... Si, ça... Romains
18... Ils ne veulent pas.
Voilà, Romains 18, par exemple, dit que nous discernons Dieu par... dans sa puissance éternelle, dans sa divinité, par les choses qui sont faites. Et tout le monde le discerne. Donc il y a une connaissance de Dieu quand même qui est assez explicite quand on voit les arbres qui sont pas loin, les choses qui sont faites, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et puis je dirais aussi que la connaissance de l'homme, avec toute la misère de l'homme sans Dieu, est quelque chose qui nous pousse vers lui.
Oui. Moi, j'ai toujours été un peu gêné par les personnes qui me disent « Ah bien, moi, je crois en Dieu parce que je vois la création. » Et je trouve que c'est un peu réducteur.
Mais écoutez, moi, j'allais vers mon bureau il y a quelques jours et je me promenais. En promenant, il a plu à Aix la semaine dernière.
Il pleut à Aix.
Il pleuvait, non? Non? Oui. Et donc, et puis, avec un beau soleil après, et l'herbe a été montée de 25 cm, et en quelques jours, hein, 2-3 jours, et puis il y avait un arbre. Et je me suis dit, mais comme c'est curieux qu'une petite graine fasse pousser de l'herbe et qu'une petite graine fasse pousser un gros arbre. Et là, j'ai quand même été, alors que je suis chrétien depuis longtemps, j'ai une trentaine d'années de vie d'adulte chrétien avec une connaissance de Dieu, j'ai été interpellé par cette chose un peu simple, un peu naïve, en disant, mais Dieu est quand même fort. Et je pense que ça, tout le monde peut être interpellé par ça.
Oui, non, mais moi, je ne suis pas contre ce raisonnement, quand même. Mais ça m'a conforté, disons, l'idée de Dieu, cette création et cette vie. Parce que la création, c'est quand même de la vie. Hein. Mais à mon avis, il faut autre chose. Bon, c'est difficile à définir, peut-être, effectivement. Et puis donc, Paul, dans les Éphésiens, disons, ne développe pas. Alors, nous pouvons continuer. Donc, après, en fait, c'est peut-être aussi là, peut-être l'essentiel, là aussi, c'est pas la première fois que je le dis aujourd'hui, mais disons, c'est le mystère du salut qui est présenté. Parce qu'effectivement, il faut le connaître et l'accepter et le comprendre. Donc, dans le chapitre toujours 1 et de 7 à 10, là, Paul réexplique donc, la doctrine.
Oui. Oui, donc quelque chose qui fait partie de ce qui est révélé, un mystère, c'est quelque chose qui avait été caché pendant un temps en grec, et puis qui est révélé. Et donc Paul parle avec des mots qui sont peut-être un peu complexes, mais qui sont finalement relativement simples. Verset 7, nous avons la rédemption par le sang de son bien-aimé. Hein, la rédemption, c'est le rachat. Et donc, quelque part, nous étions égarés et Dieu nous a rachetés parce que Dieu, en Christ, a payé pour faire la distance qui nous séparait de lui. Il est venu vers nous, il a payé de sa propre vie en Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ est mort. Et donc, nous avons été rachetés par son sang et nos fautes ont été rachetées selon les richesses de sa grâce. Voilà qui est... peut-être très dense, mais finalement très simple. Il ne s'agit pas de que nous ayons quelque chose à payer pour être avec Dieu. Non, Dieu a payé lui-même. C'est lui qui nous a rachetés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, nous avons, nous, simplement à recevoir ce cadeau et à vivre sous la grâce.
Parce que c'est entièrement gratuit.
Voilà.
Donc, on n'a pas à avoir peur de Dieu. On n'a pas à avoir peur de nous-mêmes et de notre passé de pécheurs, nous sommes donc justifiés par le sacrifice de Dieu.
Voilà.
De Jésus.
De Jésus. Et si toutefois nous le recevons. C'est-à-dire que, voilà, tout à l'heure vous parliez des choisis et de ceux qui ne sont pas choisis.
Et de connaître.
Voilà, et de connaître.
Dans ce sens-là, connaître.
Et donc là, voilà, nous avons, nous, à comprendre que Dieu a fait quelque chose pour nous. Et on pourrait dire que ce quelque chose pour nous a été vraiment un coup de tonnerre dans l'histoire de l'humanité. Parce que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la terre entière a été un coup de tonnerre. Je dirais qu'aujourd'hui, qui ne sait pas que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, est mort sur la croix et est ressuscité? C'est quelque chose qui... dans lequel il y a certainement des gens qui ne sont pas au courant, des gens qui n'ont pas accès ni à la connaissance aujourd'hui d'Internet, bien sûr, mais ni à la connaissance de l'écrit, qui ne savent pas lire, etc. Mais ces gens-là, je crois que Dieu leur montre, à la fois par la nature qu'il est puissant, riche et amour, et à la fois par la conscience qu'il y a une culpabilité. Et donc, avec ces deux éléments, toute personne peut croire que Dieu... demande des comptes, mais que Dieu est celui qui sauve aussi.
après, il y a, vous en avez déjà parlé, mais je crois que c'est quand même important de le redire, c'est la belle prière que Paul adresse effectivement à Dieu et qui est un récapitulatif un peu de tout ce qu'il faut savoir, je dirais. Hein, c'est donc dans 15 et 23, on revient évidemment sur la puissance de Dieu, le sacrifice du Fils et de son autorité sur toutes les créatures. Donc c'est ça, hein, on a déjà parlé de l'autorité de Jésus. Jésus, pas sa position de Fils mort et ressuscité, vit dans la gloire avec le Père et a autorité. C'est bien ça.
C'est bien ça, et c'est à nous d'être un peu surpris par la prière de Paul. Il dit « Je fais toujours mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance. » Qu'est-ce qui pourrait bien empêcher Dieu de nous donner cet esprit? Et ma réponse, c'est nous. Oui. C'est-à-dire que la prière que Paul fait à Dieu, c'est en fait une prière pour que nous, nous soyons vivants spirituellement, pour que nous nous donnions les moyens d'entendre ce que Dieu a à nous dire, pour que nous soyons d'accord avec lui, pour que nous puissions le connaître.
Voilà, le connaître, ça revient. Hein, hein.
Et donc, c'est à nous de nous donner les moyens suffisants pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps dans la méditation, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la relation fraternelle, passer du temps dans l'Église, passer du temps dans l'écoute de ce qui est dit, méditer, réfléchir, et de cette manière-là, grandir dans cette connaissance de Dieu.
Oui. Alors, on peut passer au chapitre 2, puisqu'on grappille, hein, nous avons dit. Alors, on parle là peut-être effectivement que de la situation des hommes avant la venue peut-être du Christ, avant qu'il soit sauvé. Et en fait, c'est des hommes sous l'influence, pour simplifier, je veux dire, le débat, de la chair, de la situation humaine, à partir de là.
Oui, c'est-à-dire que finalement, avant la Pentecôte, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne dans les enfants de Dieu, dans les chrétiens, les scellant, c'est-à-dire en leur donnant la marque de l'appartenance, ce qu'on trouve au chapitre 1er et au verset 13 et 14, avant que l'Esprit de Dieu vienne, alors ceux qui étaient là avant étaient un peu ballottés par tout ce que leur humanité pouvait leur suggérer, ce qui est appelé, comme vous le dites, la chair.
Oui. Alors, donc, effectivement, ils étaient sous l'emprise peut-être des puissances démoniaques, mais en fait, la venue du Christ n'a pas fait disparaître non plus quand même cette présence.
Absolument, c'est ce qu'on trouve au chapitre 2, quand on voit que, avant que la conversion ne se produise, avant que le fait d'adhérer à Dieu, à la connaissance de ce qu'il dit et à sa personne, alors il est dit au chapitre 2 et au verset 1er, « Lorsque vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés... »
Spirituellement mort.
Spirituellement parlant, vous avez raison de le souligner. Et il est dit « Les péchés dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, donc comme tout le monde le faisait, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. » Donc, on sait qu'avant notre conversion, on était ballotté et pris par... quelque part, les esprits démoniaques de mensonge qui nous empêchaient. Hein. Et maintenant, nous en sommes, nous, libérés, mais ces esprits opèrent encore maintenant parmi les fils de la désobéissance. Toujours ces deux catégories, ceux qui sont choisis ou pas choisis, ceux qui sont les fils de l'obéissance et les fils de la désobéissance.
On a l'impression que ce combat existe en permanence.
Oui, parce que finalement, Dieu nous donne la puissance pour bien faire ou pour mal faire. Si nous voulons bien faire, alors nous avons cette puissance-là, et étant nous réconciliés avec lui, scellés de l'Esprit de Dieu, parce qu'une fois dans notre vie, nous avons accepté ce cadeau qu'il nous faisait, de l'œuvre de la rédemption, alors nous avons à notre disposition la puissance pour faire le bien. Mais nous avons également à notre disposition la puissance pour faire le mal, et c'est pour ça qu'au chapitre 4 et au verset 27, il dira « Ne donnez pas occasion au diable ».
Donc, on peut résister.
On peut résister, on peut être vainqueur.
On aura toutes les armes possibles pour le faire. Alors, on continue. Donc, on se rend compte que tout est arrivé par Jésus-Christ, qui est donc annoncé la bonne nouvelle. C'était une invitation à s'ouvrir et à savoir ce que Dieu voulait de nous. Son sacrifice nous a justifiés, bien entendu. nous sommes dans les héritiers de Dieu, nous sommes donc frères. Donc là, effectivement, dans le chapitre 2, Paul quand même se permet de rappeler que puisqu'on a le même Père, qu'on est les frères de Jésus-Christ, eh bien, il faut rester unis. Donc il y a un devoir de fraternité entre les hommes.
Voilà, c'est très très important ça. Par exemple, le mot « ensemble » apparaît vraiment de manière insistante. Hein, chapitre 2, verset 5, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Et donc, dans le « ensemble », il y a à la fois dans notre relation avec Jésus-Christ, d'un côté, mais il y a également le fait que les enfants de Dieu sont ensemble pour quelque chose. Et il va dire dans la deuxième partie du chapitre 2, versets 11 à 22, voilà, que nous sommes édifiés, nous dit le verset 22, ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Et il va montrer avec évidence qu'il y a à ce moment-là deux appels, c'est l'appel du peuple juif et l'appel des nations. Le peuple juif est appelé à être un peuple qui a un territoire, qui a des frontières, qui a le temple dans lequel Dieu vient habiter spirituellement dans le Dieu très saint. Et le Messie est appelé à venir régner sur ce territoire. Ça, c'est l'appel du peuple juif. Et donc, les nations n'ont pas le même appel que les peuples juifs. Mais, par contre, juifs et nations sont appelés à être réconciliés avec Dieu, à être sauvés par la grâce, par la foi, comme c'est dit au verset 8 du chapitre 2. Et donc, il dit au verset 13, « Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, c'est-à-dire les nations, vous avez été approchés par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix et qui, des deux, en a fait un. » C'est-à-dire que du peuple juif et des nations a fait finalement un seul peuple qui est l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre expiatoire de Christ, qui sont les rachetés. Mais cela n'enlève pas que Israël est appelé à quelque chose différent des nations, et dans le futur, quand Christ viendra régner sur Israël et les nations, on retrouvera ces différences. En attendant, dans Éphésiens, ces différences n'apparaissent pratiquement pas.
Et alors, en fait, on est obligé de reconnaître quand même que Paul, c'est ce qu'il écrit, excusez-moi, et ça suit un plan logique. Quelques versets au-dessus, il dit qu'on est donc tous ensemble, qu'on est les frères et qu'on a le même père, donc l'appel à la fraternité, et il s'ouvre tout de suite ensuite à Israël et aux nations. Israël, quand même, ne peut pas rester uniquement sous la tutelle de Dieu, il y a aussi les autres, l'ouverture aux nations. Et ça, je ne sais pas si les Juifs l'ont toujours très bien accepté, mais les nations vont l'avoir accepté plus facilement. Alors, après qu'il y ait peut-être encore un rôle privilégié pour le peuple élu de Dieu, plus tard, mais là, pour l'instant, il y a une ouverture qui se fait, et c'est Paul qui en sera le champion.
Et je ne dirais peut-être pas privilégié, mais particulier.
Particulier. C'est-à-dire
que les nations ont aussi un rôle privilégié. Mais avec ces rôles particuliers différents, je crois qu'on met tout le monde à l'aise. Hein, les Juifs et les nations sont dans la main de Dieu, mais les Juifs ont quand même reçu quelque chose avant les nations, mais dont les nations devaient être bénéficiaires, finalement.
Oui. Et puis donc, dans le chapitre 3, eh bien, il y a effectivement donc Paul qui va glorifier le Père pour l'élément essentiel, et son plan est d'une rigueur, je trouve, extraordinaire, hein. Disons, c'est l'amour. Tout ça doit se faire dans l'amour. Dieu aime les hommes, donc les hommes doivent, bien sûr, aussi réagir de la même façon.
On retrouve cette réalité fondamentale de différentes manières. On le retrouve, par exemple, au chapitre 1 et au verset 4. Il dit que ce que Dieu a fait, et il nous a bénis pour que nous soyons, je le lis, irréprochables devant lui en amour. Hein? Au chapitre 3, il va dire que Dieu, et au verset 16, que Dieu va nous donner d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, et il dit « afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Et donc, voilà, l'amour, c'est la seule chose qui est vraiment capable de nous combler. Quand on a compris comment être bien l'un avec l'autre, alors je crois qu'on a tout compris.
C'est le moteur. Hein, qui nous permet d'adhérer à Dieu, mais aussi de vivre dans notre société. Alors, on part dans la deuxième partie. Donc là, c'était toute la doctrine qui a été bien expliquée, bien rappelée. Donc là aussi, c'est très pédagogique. Et puis évidemment, on imagine que si ça avait été, par exemple, une prédication, le public aurait très bien pu dire « Mais alors, oui, c'est bien joli tout ça, mais comment le vivre ?» Et Paul, qui doit avoir l'expérience, se doute qu'il doit y avoir toujours des questions qui suivent l'exposition l'exposé de la doctrine. Et à partir de là, eh bien, on va partir sur des points particuliers. Il ne va pas se contredire, mais il va expliquer, évidemment, pour chaque cas, évidemment, ce qu'il faut faire et comment il faut voir les choses. Alors, évidemment, dans le chapitre 4, que propose l'apôtre pour maintenir l'unité du corps, c'est-à-dire la nouvelle qualité de la relation et de la communion, hein, mais ça vient de la charité. Et il faut se comporter autrement, car on a bénéficié de la grâce, donc du don gratuit d'être sauvé. Ça doit nous influer obligatoirement sur la vie de tous les jours. Étant bénéficiaire évidemment de l'amour de Dieu, de le don de la grâce, je crois que nous sommes obligés, mais naturellement, normalement, de vivre autrement et peut-être changer notre façon de voir, notre façon de faire, notre façon de comprendre les choses et surtout les autres.
Oui, c'est quelque chose de fondamental que Paul développe. Déjà au chapitre 2, où il est dit, par exemple, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu », verset 10, « ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Et comme vous le soulignez, à partir du chapitre 4, ce mot « marcher » se retrouve plusieurs fois. On trouve au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur », on voit qu'il est en prison, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Et il va dire, après, au verset 17, je dis, je témoigne, que vous ne marchiez plus comme le reste des nations. On va le retrouver un peu plus tard, où il va dire, par exemple, au chapitre 5 et au verset 15, prenez garde à marcher soigneusement, non commettant, dépourvu de sagesse, etc. Et donc, il y a un aspect pratique. Vous avez dit, on est bénéficiaire de Dieu, et donc il faut forcément que cette grande puissance, cette autonomie que Dieu nous donne, qu'on la mette au service de quelque chose. Alors, je propose un peu comme plan, dans ces chapitres 4, 5, 6, la chose suivante, c'est que Paul, comme vous l'avez souligné, nous appelle d'abord à marcher ensemble. Chapitre 4, versets 1 à 16, et il dit que pour que nous marchions ensemble, pour que nous réalisions que l'Église est une et que les chrétiens sont des frères et des sœurs appelés à marcher ensemble, alors il est dit que Jésus, et c'est dit entre le verset 9 et le verset 11, il a fait des dons aux hommes.
Alors quels sont ces dons?
Ces dons, ce sont les dons de personnes qui sont là pour que l'Église marche bien. Alors, avant de parler de ces dons, je vais simplement montrer dans ces trois chapitres comment est-ce que cette marche doit se faire. Donc, chapitre 4, versets 1 à 16, c'est la marche dans l'Église, la marche fraternelle, la marche ensemble. Chapitre 4, verset 17, jusqu'à chapitre 5, verset 21, c'est la marche personnelle, avec toute une réflexion sur ce que nous sommes personnellement, mais aussi dans ce rapport avec le monde invisible. Ensuite, chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33, c'est la marche dans le couple. Chapitre 6, verset 1 à 4, c'est la marche dans la famille. Chapitre 6, verset 5 à 9, c'est la marche dans la société, avec le rapport esclave-maître, qui est le rapport salarié avec patron. Et puis, chapitre 6, verset 10 jusqu'à la fin, c'est finalement, de manière très générale, la marche face au monde invisible, qui est un monde adversaire. Alors maintenant, on peut rentrer dans le détail de cette vie d'Église avec les dons que Jésus a fait aux hommes.
Donc, Dieu donne des dons aux hommes. Alors, quels sont-ils? Et donc, là, vous avez déjà un peu répondu. La raison de ces dons, c'est en fait pour permettre l'unité, que l'ensemble fonctionne parfaitement.
Oui, je
le
dirais.
Le plus possible, disons.
Je dirais que le corps de Christ qui est l'Église, l'ensemble des enfants de Dieu, quelle que soit leur place sur la terre, grandissent en quantité et en qualité. Alors, en qualité, par exemple, on le voit au verset 13, il dit « Afin que nous parvenions tous à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait ou complet. » Donc, il y a un accroissement en qualité et aussi un accroissement en quantité pour que le corps de Christ augmente en numéraire. Et donc, il a fait des dons aux hommes, et il est dit qu'il a donné cinq types de personnes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Alors, les docteurs et les pasteurs.
Quels sont les rôles de chacun?
Alors, les apôtres et les prophètes, ce sont ceux que Paul dit dans cette lettre, être le fondement de l'Église. On trouve ça, par exemple, au chapitre 2 et au verset 20, il dit que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu en son intérieur, où Dieu lui dit, un peu comme le prophète Agabus au chapitre 21 du livre des Actes, Dieu dit à Agabus de dire ceci. Alors Agabus va ouvrir les guillemets et va dire ainsi, dit l'Éternel, ou l'Esprit de Dieu, l'homme à qui est de cette ceinture, les Romains, les Juifs le prendront et le livreront aux Romains. Et donc Agabus fait une prophétie, c'est-à-dire qu'il dit strictement ce que Dieu lui a demandé de dire. Ça, c'est le prophète. Et les apôtres sont ceux qui ont compris l'intention de Dieu, ce qu'on appelle la doctrine, vous l'avez appelé la doctrine, et qui vont donc donner à la fois la direction et la dynamique de l'Église. La parole de Dieu est celle qui vient confirmer ce que font les apôtres, et les apôtres font un travail de fondement. C'est pour ça que les apôtres et les prophètes sont placés en premier, que ce soit dans Éphésiens 4, ici, comme dans Corinthiens 12, pour l'œuvre finalement fondamentale qui est faite pour l'Église. Les apôtres
sont logique, il faut savoir. Voilà, c'est les apôtres et les prophètes qui savent et qui nous permettent de savoir aussi.
Les apôtres, ce sont ces 11 personnes, puisque Judas est mort, ces 11 personnes qui ont été à la fois témoins oculaires de Christ, mais aussi enseignés par lui. Et les prophètes, ce sont ceux qui viennent après. Et donc après, il y a les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Les évangélistes, ce sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle de toute l'œuvre de Dieu. Par exemple, le mystère de l'Église, hein, selon cette même expression que vous avez utilisée, chapitre 3, verset 3, il est dit le mystère qui est révélé, et c'est ce mystère de l'Église, savoir qu'à un moment donné, Dieu donnerait son esprit à l'ensemble des personnes qui seraient sur la terre et qui voudraient le recevoir, le mystère de l'Église. Et donc, les évangélistes apporte cette bonne nouvelle, hein, qui est la bonne nouvelle du cadeau de Dieu au monde, le cadeau de sa grâce. Les docteurs l'enseignent et les pasteurs font du bien, font du bien à ceux qui souffrent, aident en quelque sorte à se relever. Et comme il est dit au verset 16 du chapitre 4, afin que le corps soit bien ajusté, bien lié ensemble avec toutes ses articulations et que finalement son corps produise, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps. Voilà. Et donc, on voit que c'est une machine qui est bien huilée, bien rodée, et qui devrait faire que de bonnes choses se font par l'Esprit de Dieu.
On revient toujours à la même comparaison, c'est-à-dire au corps. Le corps humain a plusieurs organes, il y a différentes fonctions, et dans l'Église aussi, chacun doit faire quelque chose pour que le corps se porte bien.
C'est ça.
Et alors, il y a quand même un petit verset qui peut surprendre. N'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute personne qui était baptisée ou non, a reçu le Saint-Esprit parce que Dieu lui a donné parce qu'il a accepté cette œuvre expiatoire de Christ, d'être racheté, d'avoir la rémission des péchés. Toute personne est scellée de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on trouve en Éphésiens 4:30. Elle est scellée par l'Esprit de Dieu, mais elle peut l'attrister. Elle est scellée parce qu'elle appartient à Dieu, mais elle peut attrister l'Esprit de Dieu parce que finalement, elle pourrait soit ne pas être d'accord avec lui, soit être d'accord avec des choses dans lesquelles l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord. Hein, oui. Quand on, volontairement, quand on ment, quand on est en colère, quand on injurie, quand on fait du mal, quand on méprise, quand on fuit, alors on attriste l'Esprit de Dieu, et donc c'est un comportement qui peut être celui du chrétien, malheureusement. Mais nous, nous avons à progresser et à nous rendre compte que nous pouvons finalement ne pas être comme ça.
Et puis il insiste quand même à la fin du chapitre 4 sur un élément là aussi qui doit nous interpeller, c'est d'être un homme nouveau.
C'est ça. On trouve ça au verset 22 au verset 24, de dépouiller le vieil homme et de revêtir le nouvel homme. Et on a un ensemble d'expressions qui résonnent avec cela. Par exemple, le verset 25, « Dépouiller le mensonge et parler la vérité. » Hein, c'est intéressant. Au verset 31, il dit « Que toute amertume, courroux, colère, crierie, injure soit ôtée du milieu de vous. » Il dit, verset 32, « Mais soyez bons les uns envers les autres. » C'est donc « Dépouiller, revêtir. » C'est intéressant. On voit aussi dans cette section donc du chapitre 4, verset 17, au chapitre 5, verset 21, comment est-ce que nous avons, nous, à prendre notre place à l'égard des puissances spirituelles dans le monde invisible. Par exemple, il est question souvent de vérité et de mensonge. Verset 25, « Ayant dépouillé la vérité, pardon, ayant dépouillé le mensonge, parler la vérité, je suis allé trop vite. »
Oui.
Hein? Et verset 26, il est dit, mais tu vois, en colère, c'est-à-dire en fait,
réagissez
face au mensonge, face à l'injustice. Verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Verset, par exemple, verset 32, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Verset 3 du chapitre 5, qu'aucune parole impure, de cupidité, honteuse, folle, ne soit nommée parmi vous, mais plutôt des actions de grâce. Donc on voit comment, dans notre communication, nous sommes appelés non seulement à dire le bien, mais à dénoncer le mal. Chapitre 5, verset 7, n'ayons pas de participation avec les fils de la désobéissance. Verset 11, avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. Et verset 13, toute chose étant reprise par la lumière. On est appelé, nous, à dénoncer finalement ces œuvres mauvaises des ténèbres. On est appelé à être vraiment des luminaires dans un monde de ténèbres.
Moi, personnellement, il y a un verset là qui me touche toujours personnellement et je rejoins, c'est dans la lumière, c'est tout simplement lorsqu'on dit « réveille-toi », donc on était dans un état de somnolence, hein, probablement, donc « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi », donc se relever c'est important, hein, se dresser, c'est l'homme qui est dressé, hein, « d'entre les morts et le Christ éclairera ». Et donc là, moi, je trouve ça, parce que c'est magnifique, parce qu'on voit que notre condition humaine, j'allais dire bêtement humaine, donc quand même pas, humaine, eh bien, si on veut se réveiller, si on se redresse, eh bien, on aura toujours la lumière, effectivement, du Christ pour nous éclairer, et pour s'éclairer, eh bien, sur le chemin, c'est important. Surtout quand on est dans les ténèbres, on a besoin d'une lumière pour ne pas trébucher. Et donc là, moi, je trouve ça toujours ce verset magnifique. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur de Dieu, de se tromper ou de ne pas oser, parce qu'on est avec le Christ.
Et c'est un privilège du chrétien de se relever. Je dirais que, par exemple, on dit, ce proverbe hein, en pseudo-latin, hein, errare humanum est et perseverare diabolicum est. Hein, voilà. Mais ce n'est pas faux. Hein. Mmh. Hein, c'est-à-dire que le chrétien, voilà, on fait tous l'erreur de se tromper, mais quand on se trompe, alors on doit réaliser qu'on peut ne plus se tromper.
Oui, il faut réagir. Donc, après, eh bien, je crois qu'on va prendre des cas très pratiques. On aborde la question la plus délicate, effectivement, et qui souvent a été, qui a soulevé des controverses, c'est la situation des femmes et des maris. On a toujours eu l'impression, si on a une mauvaise lecture, que, mon Dieu, eh bien, les femmes doivent être soumises, enfin, tout le monde doit être soumis les uns aux autres, mais en fait, le verbe soumettre n'est peut-être pas le verbe exact. Je ne connais pas différentes traductions, mais je vous laisse le plaisir de donner une autre signification à être soumis.
Alors, soumettre, en grec, hypotasso, ça veut dire tout simplement se placer dessous. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Je crois que, on ne va pas prendre le temps de le voir en détail dans les chapitres 1, 2, 3 de la Genèse, je crois que les hommes et les femmes sont différents. Je pense que ce qui caractérise la femme, c'est d'être un être sensible, un être relationnel, un être plus fragile que l'homme, et un être dont la capacité relationnelle est beaucoup plus grande que celle de l'homme par sa propre sensibilité. Je crois que l'homme est un être plutôt en action, l'homme est plutôt fort, il est entreprenant, il a des épaules, il est beaucoup moins sensible, et mettons que les qualités de sa force font qu'il a des défauts de son manque de sensibilité, ce qui fait que, en général dans le couple, Dieu dit à la femme, réfugie-toi sous l'aile de ton mari, hypotasso, se placer en dessous, hein, et c'est là que tu seras bien. Mais ça ne veut pas dire accepte n'importe quoi. Ça ne veut pas dire donne-lui toujours raison. Au contraire, ça veut dire reprends-le quand il a besoin d'être repris.
Oui, exactement.
Puisque toi, tu es plus sensible que lui. Toi, tu te rends compte beaucoup mieux que lui, que l'homme, de toutes les situations dans lesquelles l'homme est capable d'être un bourrin, un insensible, et à côté de la plaque, parce que finalement, il n'a pas cette sensibilité qu'a la femme. Je crois que l'homme et la femme sont très complémentaires. Mais c'est pour ça qu'il est dit à la femme de se soumettre, de se placer sous l'aile protectrice de son mari, mais il est dit à l'homme d'aimer sa femme.
Oui, alors en fait, je vous l'avais dit, ils sont complémentaires, chacun étant différent, donc ils vont former un tout, évidemment, non pas s'il y a une soumission, mais s'il y a un service, disons, commun. Le mari fort va protéger la femme, et la femme qui est plus sensible peut lui expliquer certaines subtilités qui pourraient lui échapper.
C'est tout à fait ça.
C'est ce que je voulais vous faire dire. En fait, ce n'est pas la soumission, mais c'est la notion de service qui peut effectivement donc être envisagée. Alors, est-ce que c'est pareil pour le chapitre suivant, ou plutôt les versets suivants, pour les enfants ?
Alors, pour les enfants, c'est un petit peu différent, puisqu'il s'agit d'un rapport d'obéissance aux parents, où il est dit aux parents, aux enfants d'obéir aux parents, mais aux parents d'élever les enfants dans la crainte du Seigneur.
Oui.
Donc il y a des choses qui sont absolument explicites et dans lesquelles beaucoup de parents, à mon sens, ne rentrent pas. Et quelque part, d'hommes prêtent le flanc au monde invisible, justement, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et c'est les parents qui diraient, par exemple, eh bien, écoutez, mes enfants ne m'obéissent pas. Oui, mais c'est aux parents de se faire obéir. C'est aux parents de faire ce qu'il faut pour que les enfants puissent aller, mais il est dit au père, par exemple, de ne pas provoquer ou de ne pas irriter les enfants, ce qui montre que les parents doivent se faire obéir, mais avec toute la patience, la douceur, la disponibilité et les qualités que les parents devraient avoir. C'est un peu la même chose dans le rapport esclave et maître, hein, où les esclaves sont appelés à obéir au maître, mais les maîtres sont appelés à vivre avec les esclaves ou avec les salariés, par exemple, en bonne collaboration, en bonne entente, dans une intelligence d'entente qui est à la gloire de Dieu. Alors, je voudrais quand même dire que dans le chapitre 5, du verset 18 jusqu'au verset 21, il y a une clé très très importante qui est de ne pas être rempli de vin, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez rempli de l'esprit. Et c'est-à-dire que
c'est
pas la même chose. Hein. Et dans cette lettre aux Éphésiens, il y a au chapitre 3 et au verset 19, Il est dit « afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Au chapitre 4 et au verset 13, il est dit « jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de la plénitude du Christ ». Et au chapitre 5, au verset 18, il est dit « soyez remplis de l'Esprit ». On est appelé, nous, à être remplis de la présence de Dieu, à la fois en personne et aussi en parole. Et cette présence, elle se fait sous trois conditions, nous dit Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ces trois conditions, c'est premièrement, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant votre cœur au Seigneur, comme quoi le chant, c'est très important.
C'est la prière aussi.
C'est la prière, c'est un chant, bien sûr, avec des paroles consacrées, des paroles qui ouvrent à la présence de Dieu. C'est la première réalité. Deuxième réalité, il dit « rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père ». Qu'est-ce que ça veut dire « rendre grâce » ? Ça veut dire reconnaître que tout est grâce. Quand il pleut, je rends grâce. Quand je suis cambriolé, je rends grâce. Quand j'ai un accident, je rends grâce. Quand je suis malade, je rends grâce. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je me réjouis. Ça ne veut pas dire que je dis merci. Non, je reconnais que tout est dans la main de Dieu et je suis disponible, disposé à entendre sa voix pour que dans ma nuit, le chant de Dieu se manifeste et que je puisse, moi, mieux vivre ma nuit. Hein, voilà la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est verset 21, « étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et c'est là où on voit que dans un rapport qui est généreux, qui est ouvert, qui est utile les uns avec les autres, alors nous avons, nous, quelque chose de riche, quelque chose qui nous permet de vivre dans l'esprit et d'être rempli de l'esprit. Avec cette clé d'être rempli de l'esprit, je crois qu'on peut vivre vraiment comme il faut dans le couple, dans la famille ou dans le travail.
Oui, là, on vous parlait de crainte. Je pense qu'il faut prendre le mot crainte plutôt par, disons, respect.
Le respect, l'honneur.
C'est pas la peur.
Alors, c'est pas la peur, mais...
Tout tombe par terre, là.
C'est pas la peur, mais en général, crainte, dans le Nouveau Testament grec, dans la marche du chrétien, c'est le grec phobos, qui a donné phobie.
Ah oui, quand même.
Hein, mais, si vous voulez, c'est pas la phobie maladive, c'est la phobie respectueuse, c'est l'attitude de crainte, parce qu'on sait quelque part que Dieu a raison et que nous pouvons avoir tort.
Voilà, d'accord, oui. Mais bon, c'est pas la peur du coup de bâton.
Non.
Bien entendu. Alors, après, donc, choses très intéressantes qui ont été exposées. La vie est un combat, contre soi-même, contre les autres, parce que l'ennemi n'est pas toujours l'autre. On peut être soi-même son propre ennemi. Et donc, si nous devons combattre, il nous faut des armes. Mais là aussi, on l'a déjà dit plus haut, on n'a pas à avoir peur. Si nous avons un combat à mener, eh bien, il est évident que Dieu nous a donné les moyens de combattre et il nous a donné des armes. Et là aussi, dans l'Épître aux Éphésiens, je trouve toujours des passages qui m'émerveillent. Et c'est donc, disons, cette énumération de possibilités pour mener à bien le combat. Alors, Dieu nous demande de revêtir une armure et qui comprend un ceinturon. Alors, le ceinturon, quelle est sa signification ?
Alors, c'est intéressant de voir que ces armes dont parle Paul, il les dit « revêtez-vous de toutes les armes » et il appelle ça, et en grec, c'est la panoplie. Parce que pan, ça veut dire tout, et oplos, c'est les armes. Intéressant de voir que la panoplie du plombier, de l'électricien, c'est l'ensemble des armes. Voilà, la panoplie, je trouvais que c'était intéressant à dire. Donc, Paul, effectivement, vous le dites, nous appelle à avoir un ceinturon, et ce ceinturon, c'est le fait d'avoir la vérité en nous-mêmes, de recevoir la vérité de Dieu, de la comprendre. C'est un peu ce qu'on avait déjà au chapitre 1er et au verset 17, que le Père de gloire nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de notre cœur étant éclairés. Et donc, il y a six armes, en fait, dans cette panoplie, dans l'armure du chrétien, qui sont le fait de penser vrai, première arme, la ceinture de la vérité, le fait de faire vrai, la cuirasse de la justice, et le fait de dire vrai, les pieds préparés ou chaussés de la préparation de l'évangile de paix.
Alors, je reprends quand même le ceinturon. Le ceinturon, c'est quelque chose qui vous permet de tenir droit.
C'est ça.
Et donc, la vérité doit vous permettre de rester Droit. Hein? Alors ensuite, nous passons à la
cuirasse. Et on dit que le ceinturon était la pièce qui permettait de faire tenir toute la cuirasse du soldat romain, pour montrer son importance.
Et voilà. Alors après, donc, vous parlez de la cuirasse. Elle a besoin, donc, pour se maintenir, de la vérité. Hein? Et c'est donc une notion là, de justice.
Oui.
Hein, qui doit être...
La justice, c'est quoi? C'est l'arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. Si, par exemple, je bois 35 tasses de café, vu ce que c'est que le café et ce qu'il va me faire, Dieu me dit ce n'est pas juste. Et c'est Dieu qui arbitre, c'est Dieu qui rend justice. Donc, le fait que moi je revête la cuirasse de la justice montre bien que c'est par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que par rapport à ce que je fais, Dieu va me dire c'est bien ou c'est pas bien. Et chaque fois que je ne fais pas bien, je me rends vulnérable. Et la cuirasse se mettait sur les fonctions vitales, sur le torse.
Voilà, oui. Donc c'est dans ce sens-là qu'on comprend mieux, parce que effectivement c'était un peu plus difficile. Le ceinturon, ça marche très bien, la cuirasse, c'est un peu difficile. Mais là, vous l'avez bien expliqué. Alors ensuite, les chaussures, là, c'est clair et net. Voilà. Ça vous permet de, effectivement, donc, de donner certains ailes pour l'évangile, pour la vie de chrétien.
Dans la mesure où moi-même, je suis bien parce que je pense vrai, invulnérable parce que je fais vrai, alors il me manquerait quelque chose si je ne disais pas aux autres dire vrai, comment je peux être, moi, épanoui et vivre positivement.
Donc, faut dire vrai. Il faut annoncer et témoigner. Il faut y aller. Donc, il faut être bien chaussé pour faire sa route. Marcher. Hein, on va parler de marcher. Ensuite, il y a évidemment le bouclier. Là, c'est relativement simple. Il protège. Il protège contre des attaques que l'on peut, l'ennemi peut nous envoyer contre notre foi. Donc, il faut avoir notre foi et garder notre foi.
À mon sens, il y a donc encore trois pièces qui sont absolument symétriques aux trois premières. La première pièce, c'est la ceinture de la vérité pour penser vrai. Oui. Et la quatrième pièce, qui est symétrique, c'est le bouclier de la foi qui est pour éteindre les dards enflammés du méchant. Les dards enflammés du méchant, c'est le mensonge. Mmh. Et donc, le bouclier me permet de ne pas penser faux.
Voilà. Parce que de préserver la vérité.
On peut à la fois penser vrai et penser faux, malheureusement, dans notre tête. On peut dire, quelque part, je suis précieux aux yeux de Dieu, mais je ne vaux rien. Mmh. Hein? Et là, il y a quand même quelque chose qui est à la fois vrai, je suis précieux aux yeux de Dieu, et à la fois faux, je ne vaux rien. Hein? Les timides sont des gens qui ne valent rien. Qui pensent qu'ils ne valent rien.
Ah oui, pardon. Oui, non, j'avais très bien compris.
Voilà. Et donc, le bouclier de la foi, c'est ce qui nous permet de ne pas penser faux et de ne pas céder quelque part à la tentation de penser faux, mais en étant précautionneux. La cinquième pièce, c'est le casque du salut, oui. Et il est symétrique à la deuxième. La deuxième, c'est la cuirasse de la justice. Alors, je suis cuirassé parce que je fais vrai, et le casque du salut, je suis sauvé, et le casque, s'il est sur la tête, c'est le lieu de la décision, et donc ce que je décide n'est pas faux. Je suis sauvé.
Ah, voilà.
Hein, le casque du salut. Et donc, par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'aide, alors je peux toujours, moi, ne pas faire faux non plus. Et la dernière pièce, la sixième, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Glaive, oui.
Et dans la troisième pièce, j'allais dire ce qui était vrai, et dans la sixième, je dénonce ce qui est faux.
Oui, vous le dénoncez, mais enfin, vous pénétrez aussi, je pense.
C'est ça, je coupe, je tranche, mais ce n'est pas contre l'humain que je fais ça.
Non, bien sûr.
Hein, c'est contre les puissances spirituelles de méchanceté, c'est-à-dire chaque fois que le mensonge voudrait s'insinuer quelque part. Et donc, c'est intéressant de voir au chapitre 4, au verset 27, qu'il est dit « Ne donnez pas occasion au diable ».
Oui.
Intéressant de voir que si je ne me mets pas en colère, si je laisse le mensonge évoluer ou vivre parmi nous, alors je donne occasion au diable. Et là, non, je suis appelé à réfuter, à reprendre ouvertement. C'est ça un peu ma mission.
Et donc, on achève, disons, l'épître aux Éphésiens, donc c'est... le chapitre 6, et à partir du verset 21 et 24, c'est des salutations, et on retrouve, disons, des termes essentiels, la paix, l'amour, la foi, la grâce, au nom du Fils et du Père.
Avec une conclusion qui est très, très délicate, hein, Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Pureté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, être pur. Et je crois que le mélange, c'est ça qui ouvre au monde invisible. C'est ça qui fait que nous sommes, quelque part, ceux qui appelons la puissance du mal chaque fois qu'on accueille en nous ce qui est impur. Chaque fois qu'on ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre vérité et mensonge, entre finalement la puissance de Dieu et la puissance du diable. Je crois que le diable n'est pas celui qui nous attaque, mais le diable, il est celui qui se tient prêt à donner la puissance du mal. C'est pour ça que nous n'avons pas à combattre le diable. Nous dit Éphésiens chapitre 6, au verset 11, tenir ferme, et au verset 13, tenir ferme. Nous n'avons pas à aller combattre le diable sur son terrain, non. Nous avons à tenir ferme contre le diable
à résister.
Quand le mensonge se présente, tout à fait.
Voilà, il suffit de résister.
Oui.
De toute façon, je vois mal de s'attaquer au diable directement. Je ne sais pas comment on ferait.
Voilà, nous n'avons pas à le faire.
On va le faire.
Et si nous avions à le faire, alors bien sûr, nous avons la puissance que Dieu nous donne. Hein, puisque chapitre 6, verset 11, c'est l'armure complète de Dieu. Hein, mais nous avons quand même notre place qui est d'affirmer la vérité et de reprendre le mensonge. Et comme vous le disiez en préambule, quand nous avons commencé ces entretiens, Dieu nous appelle à le connaître, Dieu nous appelle à recevoir la connaissance qu'il nous révèle, et c'est sûr que si on ne prend pas le temps de la recevoir, alors certainement, on se retrouve en étant les jouets ou les instruments du diable à notre corps défendant, ou même sans le savoir.
Et là, Paul quand même leur annonce la visite de ses compagnons.
Voilà.
Et dans quel but? Pour les aider? Pour les soutenir?
Parce que Tychique, on retrouve Tychique dans la lettre aux Colossiens, hein, il est celui qui donne des nouvelles, celui qui porte des lettres, celui qui...
Un messager.
Voilà, un messager. Hein, il dit au verset 22 du chapitre 6, « Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin que vous connaissiez l'état de nos affaires et qu'il console vos cœurs. Hein, » Ça montre la délicatesse de Paul et son souci d'avoir une réelle communion, de marcher ensemble.
Il leur envoie un soutien.
C'est ça. Oui. On peut peut-être conclure dans cette lettre aux Éphésiens en disant que dans tous les chapitres, il y a ce rapport au monde invisible. On sait dans le monde invisible qu'il y a une hiérarchie, comme dans la hiérarchie angélique, finalement. Et donc, nous avons à faire très attention à ne pas donner occasion, aujourd'hui, avec l'occultisme, la chiromancie, le fait de lire dans la ligne de la main, les horoscopes, la magie blanche, la magie noire, l'écriture automatique. Il y a tant de situations dans lesquelles des personnes, sans le savoir ou en le sachant, donne occasion ouvertement au diable. Alors soyons très prudents et sachons même aider ces gens qui donnent occasion au diable en leur montrant finalement comment ne pas donner occasion en étant vraiment axé sur la vérité et non sur le mensonge. Avec cela, comme vous le disiez, sachons marcher dans des choses positives, dans l'amour, en nous respectant les uns les autres, en marchant ensemble et en construisant quelque chose qui est très beau, que ce soit dans l'Église, dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans la vie sociale, mais toutes ces choses passent par l'individu, et comme le dit la section du chapitre 4, verset 17, au chapitre 5, verset 21, aussi par la communication entre les hommes.
Merci beaucoup.